Prions le Seigneur. Accorde à chacun, Seigneur, cette occasion d'écouter la parole, d'y réfléchir et de méditer, et de traduire ta parole en acte. Toute la journée d'aujourd'hui, donne-nous l'occasion de penser à ce que tu vas parler à nous, et que nous ayons l'occasion de te servir dans la lumière de ta parole. Et nous allons en prendre ce matin. Viens au milieu de nous, toi qui connais le besoin de chacun, et chuchote en chacun ce qui lui convient. Dans tout ce que nous allons lire et partager, tu connais le besoin de chacun de nous. Gloire et louange te soient rendues, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bonjour à chacun de nous. La parole de Dieu d'aujourd'hui est tirée de Jérémie, chapitre 29. Nous allons lire le petit premier au septième, mais nous allons adjoindre le verset 11. Le deuxième livre a déjà été lu par notre officiante, c'est 1 Timothée, chapitre 2, le premier au quatrième verset. Mais concentrons-nous sur Jérémie. Jérémie 29. Je vais lentement lire du premier au septième et puis je vais ajouter le verset 11. Voici le contenu de la lettre de Jérémie, le prophète, envoyant de Jérusalem au reste des anciens à captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif en Jérusalem, à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers firent sortir de Jérusalem, il a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, envoyé en Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin que l'enfante des fils et des filles multiplie là-bas où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, a déjà été lu, là où Paul nous exhorte de faire toute forme de prière à tout le monde et au roi. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prière pour les institutions clés de la nation. Et nous avons déjà prié pour ces institutions. Et le Seigneur nous écoute. Le message de Jérémie, c'est un message principalement qui annonce le jugement. Le jugement contre Juda et contre Jérusalem. Ce message que Jérémie a donné a suscité une grande opposition. Une grande opposition contre lui-même. L'opposition qui vient du peuple, mais aussi l'opposition qui vient des chefs. Alors, comme Jérémie est un prophète établi par l'Éternel, il ne devrait pas craindre. Il devrait annoncer ce message de jugement malgré la contradiction. Alors, il va connaître toute forme de souffrance, jusqu'à l'emprisonnement, jusqu'à la torture. Mais Jérémie est appelé à ne pas craindre, parce que son message vient de Dieu. Cette mission difficile de Jérémie, vous pouvez la retrouver directement au début de ce livre, au chapitre 1er, le verset 10. Jérémie est demandé d'aller arracher, d'aller démolir, d'aller détruire, d'aller renverser, sans cet côté, le côté du jugement. Mais aussi, il est appelé à aller bâtir et planter. Il a donc deux missions. La mission de détruire, la mission de bâtir. Mais lorsque vous lisez très bien la mission, vous comprenez effectivement que la mission de juger et de détruire a quatre verbes. Et la mission de planter a deux verbes. C'est pourquoi vous voyez qu'il lui est demandé d'arracher, de démolir, de détruire et de renverser. Ça, c'est le jugement. Mais le côté de la grâce, il lui est demandé de construire, de bâtir et de planter. Ça, c'est la grâce. Malheureusement pour Jérémie, tous ceux qui ont écouté Jérémie l'ont écouté plus particulièrement du côté du jugement. Il est donc considéré comme un prophète qui vient juger. Et ce peuple s'est beaucoup acharné contre cela. Il vient démolir, il vient arracher, il vient détruire. Rares sont ceux qui pensent et qui comprennent qu'il vient aussi bâtir et planter. Et ce sont les problèmes, effectivement. Jérémie est mal écouté. Mais c'est ça la situation. On ne peut pas construire sans détruire. Il y a des situations où, pour construire, il faut commencer par détruire. Même lorsque nous devons construire une maison, nous devons obligatoirement commencer par le déblayage. Nous devons détruire avant de construire. Et c'est ça le problème. C'est ça d'ailleurs le problème qu'il faut mettre en tête pour comprendre le thème d'aujourd'hui. Prier pour les institutions clés de notre nation. La mission de Jérémie vient de Dieu. Et Jérémie présente effectivement l'image de Dieu. Dieu juge, mais c'est aussi le Dieu de grâce. Et c'est comme ça que nous le connaissons. La Bible nous dit que le Dieu que nous suivons est en mesure d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire. Mais au même moment, il est en mesure de bâtir et de planter. Tous ceux qui ont suivi Dieu savent que il détruit, mais il bâtit aussi. Il vient bâtir ce qui a été abattu. Il vient planter ce qui a été arraché.
Donc, il faut le suivre avec ces deux positions. Savoir que Dieu a dit à son peuple, c'est moi qui tue et c'est moi qui donne la vie. Il a donc cette possibilité-là. Nous lisons cela à Deutéronome chapitre 32, le verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Ayons cette image lorsque nous allons faire la prière aujourd'hui pour les institutions clés de la nation dans notre pays. Alors, comment prier ces deux qui présentent des doubles casquettes? Nous prions celui qui tue et celui qui donne la vie. Celui qui peut détruire, mais qui peut aussi bâtir. Celui qui peut arracher et qui peut planter. Quel est le côté que tu regardes le plus? Alors, revenons à notre texte. Jérémie adresse la parole de Dieu à un peuple déstabilisé. Un peuple qui est victime de la cruauté des voisins. Les voisins qui y est Babylone, mais aussi l'Égypte. Alors, ce peuple assiste à n'importe quoi, à ce que les Congolais connaissent, le pillage, la destruction de la capitale, Jérusalem, l'incendie du temple, c'est grave, l'incendie du saint lieu, la déportation de la plus grande partie de la population, la déportation des élites, la déportation du roi et toute sa famille, la déportation de la reine, la déportation des agents de la cour. Ils sont tous déportés, ils ne sont plus à Jérusalem. C'est à ce peuple-là que Jérémie s'adresse. Qu'est-ce qu'est devenu Jérusalem à ce moment-là? C'est la désolation. Oui, c'est la désolation. Lorsque je lisais cette partie, je me suis rappelé d'un artiste. Un artiste qui avait chanté et qui a dit « Tout le monde bombé. » Tout le monde bombé. Il a dit les ballons bombés, les footballeurs bombés, les maisons bombées, l'arbitre bombé. Il a même dit les sifflets aussi bombés. Il a dit les coqs ne peuvent plus chanter. C'est ça la situation de Jérusalem. C'est la désolation. Vous pouvez comprendre cette désolation quand vous lisez Psaume. Je vais vous lire le Psaume 137. Psaume 137, hein? Suivez la lecture. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Jérusalem, le principal, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le sentir là-bas le sujet de ma joie. Pouvez-vous sentir la désolation là-bas? Nous avons suspendu nos harpes et les oppresseurs nous ont demandé de chanter. Chantez! Vous pouvez vous imaginer si les Congolais sont déportés et là où on est déporté, on vous dit, allez, chantez debout Congolais. Comment chanterions-nous? C'est ça, c'est ce qu'ils disent. Bon, on vous dit, allez, chantez. Chantez que il est puissant guerrier à déportation. Comment allez-vous chanter? Puissant guerrier, mais à déportation. Chantez en Aweza. C'est ça leur situation. Les Babyloniens leur demandent de chanter. Mouimbeke mungwenu ikonanguv.
Ah, mais comment chanter? Non, non. Nous suspendons nos harpes.
C'est ça la situation de ce peuple. Dans cette situation très, très difficile, dans leur cœur, comme vous les attendez, ils disent, comment on peut oublier Jérusalem? Dans leur cœur, c'est rentrer rapidement à Jérusalem. Mais pendant qu'ils sont en train de penser à rentrer rapidement à Jérusalem, la lettre de Jérémie tombe. C'est ce que nous avons lu au chapitre 29, du 1er au 7e verset. La lettre de Jérémie les arrive à déportation. Jérémie pensait beaucoup à eux. La lettre arrive. Ils sont curieux de lire la lettre de Jérémie. Mais qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? Désagréablement, lorsqu'ils lisent la lettre dit « Construisez des maisons, plantez vos jardins, mangez-en des fruits, mariez vos enfants, multipliez-vous là-bas. » Ça, c'est Jérémie. Ça, c'est encore passable. Mais ce qui est révoltant, c'est que il leur demande de faire quoi? Intercédez pour ceux qui vous ont écrasés. Dans la lettre, hein? Ne les vouez pas à la mort. Leur mort sera votre mort. Mais leur prospérité sera votre prospérité. C'est grave. C'est Jérémie ici. Il était déjà traité des pro-babyloniens. Quand vous lisez tous les livres de Jérémie, en fait, il défend Babylone. Il dit, Dieu va vous discipliner, mais il va le faire à travers Babylone. Donc, il était déjà traité de pro-babyloniens. Mais maintenant qu'ils sont à déportation, la lettre vient de Jérémie et dit, restez là-bas, mangez, construisez, mariez-vous, installez-vous. Donc c'est une lettre qui vient des collabos. Dans leur tête, les collabos des Babyloniens, c'est ce qu'il écrit. Est-ce que Jérémie est normal? C'est comme ça qu'ils peuvent répondre. Est-ce que ce Jérémie est normal? Est-ce que ce Jérémie n'est pas malade mental? S'il était de notre époque, on l'amènerait au psychologue clinicien. Jérémie est déjà malade. Il ne peut pas écrire des choses comme ça. Il nous demande donc de rester ici, de nous installer, de nous marier, de marier nos enfants, de marier nos filles. C'est toute la vie à Babylone, à déportation. Ce Jérémie était malade mental. Alors, c'est pourquoi j'ai adjoint le verset 11. Dans ce contexte ici, personne ne peut penser au verset 11. Personne. Relisons le verset 11. Dans ce contexte ici, voici ce que dit le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ça, c'est un verset qui vient après. Construisez des maisons, plantez, mangez des fruits, mariez-vous, multipliez là-bas. Alors, après avoir lu ce verset-là, il faut alors lire le verset 11. Car je connais mes projets sur vous. Mais quel projet à déportation? Quel est le projet que l'Éternel a sur ces gens ici, en déportation? Et qui peut le comprendre?
Personne, hein? Oui.
Ce n'est pas la première fois. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous trouvez que souvent nous passons dans des situations où on ne peut pas comprendre le projet de Dieu. On va détailler cette question-là dans la veillée aujourd'hui. Souvent nous passons par des situations où on ne peut pas comprendre le projet de Dieu. Mais ici, je vous ai prévu Juges chapitre 3. Si vous lisez Juges chapitre 3, le premier et le deuxième verset, Israël était entouré par un peuple. Le peuple se situait là-bas, les Philistins, les Cananéens, les Sidoniens, les Éviens. Et il y avait la guerre indéterminable, permanente. Le peuple a dit, c'est quoi, Seigneur? Et le Seigneur a répondu, vous savez pourquoi il y a la guerre? C'est parce que c'était stage pour les jeunes gens. C'est ce que le Seigneur a répondu. Il dit, les jeunes gens n'ont pas connu la guerre quand vous êtes entrés à Canaan. Donc, pour qu'ils connaissent la guerre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la guerre. Il dit alors, ces gens-là sont en train de faire la guerre pour aider les jeunes à connaître la guerre. C'était stage. Il est parfois difficile de comprendre ce que le Seigneur fait. Et surtout de mettre en tête le verset 11. Dans des conditions que nous traversons et d'être en mesure de dire, et je connais le projet que j'ai sur vous. Projet de paix. En déportation. Il faut avoir d'autres yeux pour voir cela. Et donc, à Juges, la guerre, c'était stage pour la jeunesse. Personne ne pouvait comprendre si on n'a pas écouté Dieu. Alors, pour Jérémie, en déportation, si vous lisez ce qu'il a dit là-bas, Dieu veut ressusciter son peuple à Babylone. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ressusciter le peuple? Il faut construire, planter, manger des fruits, se marier, marier ses enfants. En fait, comment on va ressusciter si on ne se marie pas? Et si on ne se reproduit pas? Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Multipliez-vous là-bas. Et encore une fois, dans la veillée, on va en prendre sur ça. Et on va trouver que plusieurs fois, le peuple d'Israël se multipliait à déportation. Pas en Israël, mais à déportation. On peut que les gens ont eu peur d'eux à déportation. En plein esclavagisme, les gens ont dit, ces gens sont en train de se multiplier, c'est dangereux. Pas dans leur pays. Et donc, lorsque vous lisez ce que Jérémie écrit dans la lettre, c'est pour dire, ressuscitez là-bas, devenez un grand peuple. En déportation, moi le Seigneur, je suis en mesure de le faire. Qui peut comprendre cela? Ça ressemble au fait en ce que David a écrit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Il veut que son peuple retrouve la vie après avoir marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, comment on peut réagir devant cette situation, nous, membres de Gomaville? C'est ce que nous demande en fait Paul à Timothée. Dans une situation comme celle-là, Paul nous exhorte de prier. Il nous demande de prier par les supplications, c'est-à-dire une prière intense, même si nous sommes dans la détresse. Mais il faut que la prière continue. Et le contenu de la prière, c'est quoi? C'est la paix pour notre région. C'est ce qu'il demande au peuple qui est à déportation. On prie pour les lieux où on est installé. On ne prie pas pour quitter le lieu, mais on prie pour le Nord Kivu, là où il y a la guerre. On reste là parce que c'est là que le Seigneur nous demande de nous installer et d'y construire des maisons et de se marier là-bas. Alors nous prions, nous intercédons. Cette nuit, on va apprendre comment intercéder au modèle de Mardoché, Esther et le peuple juif. Nous allons prendre ça comme notre modèle pour ce pays qui est dans une année des élections. Mardoché, les Juifs et Esther vont nous apprendre comment ça se fait. Alors, nous prions, nous intercédons pour les autres. Nous adressons aussi des actions de grâce. Nous exprimons notre reconnaissance dans cette situation. Nous n'allons pas attendre pour exprimer notre reconnaissance pour ce que Dieu fait dans notre situation. C'est ce que nous trouvons dans 1 Timothée. Il nous exhorte de le faire. Supplication, prière, intercession et action de grâce. Alors, lorsque nous intercédons, nous faisons ce que nous venons de faire ici. Nous citons les responsables des institutions. Il faut les citer, il faut les connaître. Quand Maman Nicole citait les institutions, j'ai trouvé que ça peut être difficile de connaître les institutions. Tu peux encore nous rappeler, les institutions du pays, c'est quoi? La présidence, j'ai l'impression qu'on ne connaissait pas ça très bien. La présidence, le parlement, la justice, il paraît qu'il y a les médias aussi. Les médias... Les gouvernements, il faut mieux connaître les institutions, sinon vous allez prier n'importe comment. Et je crois qu'il faut citer aussi les gens. Il faut citer Félix Tshisekedi. Tshisekedi, c'est lui qui est à la présidence. Il faut citer Mboso. Peut-être qu'on ne connaît même pas le nom du président du Parlement, Chambre basse. Chambre haute, le président s'appelle comment? Bahati Lukwebo. Il a droit à nos prières. Le premier ministre s'appelle Sam Alokon. Il a droit à nos prières. Nous avons appris ça ici, que nous devons intégrer les institutions. Nous devons entrer dans la gouvernance. Parce que Mwindo nous a dit ici que ce sont ces gens ici qui ont décidé que les églises soient fermées. Et les églises étaient fermées. Et ce sont ces gens qui ont encore décidé que les églises soient ouvertes. Et les églises étaient ouvertes. Donc nous avons le devoir de prier pour eux. Et nous devons les citer. Nous vivons aussi dans la région des Grands Lacs. J'espère que nous connaissons les noms des présidents des pays des Grands Lacs. Au Burundi, le président s'appelle Ndayishimiye. Au Rwanda, je crois que tout le monde connaît le président du Rwanda. En Ouganda, Kaguta Museveni. Au Soudan du Sud, j'ai l'impression que là, on ne connaît pas le nom. Salva Kiir. Il faut prier pour cet homme-là. En Ouganda, à Tanzanie. C'est un musulman. Elle s'appelle Hassan. Elle n'est pas musulman. Elle n'est pas musulmane. Le pasteur me dit qu'elle n'est pas musulmane. Et au Kenya, ce sont ces gens-là qui se réunissent pour la région des Grands Lacs. Et ils prennent des décisions. Et je crois que nous avons le devoir de les citer. Parce que le Seigneur peut utiliser ces mêmes gens pour donner la paix au Congo. Vous vous rappelez de l'histoire de Balaam? Qui avait été appelé pour aller maudire le peuple. Le Seigneur qui a créé la bouche ne pouvait pas permettre à la langue de Balaam de maudire son peuple. Et même Balak était étonné que lorsqu'il essaie d'ouvrir sa bouche, il ne maudit pas, mais il bénit. Et donc le Seigneur est à mesure d'utiliser les raisonnements de ces gens, les langues de ces gens, pour bénir au lieu de maudire. Et donc, nous devons citer ces gens dans nos prières. C'est ce que nous demande la leçon d'aujourd'hui. Pourquoi ? 1 Timothée nous dit, le premier objectif, c'est afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Deuxième objectif, ça se trouve en versets 3 et 4, que Dieu qui s'est révélé en Christ comme notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur a besoin de ces gens. Notre Seigneur a un amour scandale quand nous pensons à lui. Même nous, les chrétiens, parfois nous sommes scandalisés. Parce qu'il voudrait que Ndayishimiye, Salva Kiir, Kagame, Kaguta, Hussein, Ruto viennent à la foi. Que nous soyons dans l'éternité avec eux. Il peut y avoir peut-être quelqu'un qui ne voudrait pas être avec l'un de ces gens dans le royaume des cieux. Mais c'est ce que nous demande le deuxième objectif de notre prière pour les institutions. Le Seigneur qui s'est révélé à Christ comme sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Je vais finir cette méditation matinale par cet amour scandale de Dieu. Et l'image que Jésus-Christ nous présente, c'est l'image de Luc chapitre 15, que nous connaissons très bien. L'image de la femme prodigue. Cette image-là présente l'amour de Dieu scandale. Un père dont l'objectif principal chaque jour, ce qu'il pense dans sa tête, c'est accueillir les pécheurs. C'est ce que nous lisons. Vous allez lire lentement cette histoire que Jésus a racontée à Luc chapitre 15. Voici ce qui est arrivé. Un enfant demande son héritage à son père. Dans les cultures que nous avons ici au Kivu, cet enfant-là a demandé la mort de son père. N'est-ce pas? Ouais. Donne-moi la partie qui me revient comme héritage. C'est ce que cet enfant-là a demandé. La mort de son père. Cet enfant-là prend cette partie, il part. Qu'est-ce qu'il fait? Et malheureux, mais bredouille, il revient au père. Qu'est-ce que le père fait? Qu'est-ce qu'un père congolais ferait? Le père congolais dirait, je n'ai pas de fils. Sikuzalaka. Il dirait, cet enfant doit être amené dans les Tchaganda, au tribunal, pour ce qu'il a fait. Et peut-être un autre père prendrait les fouets et allait les fouetter. Parce que ce que ce garçon fait, c'est saut de bêtises, terrible. Toute la part de ce qui devait lui revenir est dilapidée. Il revient avec zéro. Et la Bible dit que le père a fait quoi? Il a reçu. C'est grave dans notre culture. Il a reçu sans poser question. Mais ce qu'il fait, c'est quoi? Organiser un grand banquet. Une grande fête. L'habiller très bien. Lui amener même l'anneau. Quel père! Même au quartier, on va dire que ce papa est vraiment très, très désordonné. Il est irresponsable. Mais c'est ça ce que Jésus présente comme Père, notre Dieu, qui, à chaque instant, à chaque minute, il veut recevoir toute personne qui revient vers lui. Et il a un amour scandale. Donc, je raconte cette histoire pour dire que c'est ça que 1 Timothée nous demande, que nous prions pour ces gens ici, parce que le Seigneur qui s'est révélé comme sauveur a besoin que tous les hommes soient sauvés. Tous, il faut souligner tous. Et ne soyez pas surpris de nous retrouver avec ces gens qui nous font du mal dans le royaume des cieux. Et lorsque nous prions, ne cachons pas ça.
C'est ce que Paul nous exhorte aujourd'hui. Il faut que ces gens viennent à la foi. C'est ça notre Père que nous révérons.
Donc, aujourd'hui, lorsque nous prions, mettons en tête que nous avons un Dieu qui a double casquette. C'est lui qui tue et c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui peut démolir et c'est lui qui peut bâtir. Ne le regardez pas d'un côté, comme ces gens ont pu le faire dans le message de Jérémie. Le message de Jérémie est clair, ça apporte le jugement, mais aussi la grâce. Et donc, il ne faut pas lire la partie qui présente la destruction. Il faut aussi mettre à tête le verset 11 qui dit « Mais j'ai un plan merveilleux pour vous. » Même à déportation, il faut aussi mettre à tête que la parole nous demande de prier pour les Babyloniens. Les Babyloniens que nous avons encore à côté de nous. C'était des voisins de Juda, ces Babyloniens. Et la République avait Jérémie qui est considéré comme un collabo et les dirigeants qui étaient des pro-égyptiens. Et Jérémie disait, non, il faut suivre ce que Dieu veut. Dieu va vous punir, mais par Babylone. Même si vous vous attachez à l'Égypte, vous n'allez pas réussir. Mais la punition vient de Babylone. Mais c'est encore à partir de Babylone que vous pouvez ressusciter. Parce que le Seigneur nous demande de ressusciter à partir de là. Que le Seigneur nous aide lorsque nous allons prier toute la journée et qu'il bénisse sa parole. Amen.